Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, que je fais à partir de mon livre « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années et encore disponible en librairie. Donc nous entamons maintenant le chapitre 9 de cet ouvrage qui s'appelle « Typologie des constructions symboliques ». Alors qu'est-ce que ça veut dire typologie ? Ça veut dire principe de classification, on pourrait parler aussi de taxinomie, hein. Taxis, c'est l'ordre en grec, hein. Donc comment classer les constructions symboliques ? Alors je rappelle que l'idée de construction symbolique, c'est l'âme même de tout mon livre, hein. La construction, les cultures, pour moi, se définissent par des constructions symboliques qui naissent, qui sont présentes dans l'esprit des hommes et qui ensuite peuvent être discutées, peuvent aussi disparaître. Hein. Donc tout se construit par le cœur et se détruit par l'intelligence, disait Elifor. Donc ce sont des cycles dont j'ai déjà parlé au début de cette série d'émissions. Alors les constructions symboliques, je le répète, finalement c'est l'âme même des cultures telles que je les considère. Alors comment les classer ces constructions symboliques ? Alors je vais parler d'un premier principe de classification, j'opposerai la lutte à la soumission. Et je vais donc partir d'une fable de La Fontaine. En effet, dans mon ouvrage, je dis « il n'y a pas de choses simples, mais il y a une façon simple de voir les choses ». Ce qui fait que les modèles d'intelligibilité, c'est-à-dire ce qui fait que l'on peut comprendre justement ce dont je parle, sont parfois de façon très simple tirés, mettons, des fables de La Fontaine. C'est le cas ici, hein. Lutte et soumission. Prenons la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Cette fable, à mon avis, incarne une bipolarité anthropologique fondamentale, et l'on pourra classer les constructions symboliques selon ce premier critère. Est-ce qu'elle valorise chez l'homme la lutte, l'action, l'activisme, l'interventionnisme, ou bien au contraire, est-ce qu'elle valorise chez l'homme l'abandon ou la dépossession ? Alors vous connaissez tous cette fable « Le chêne et le roseau ». Le chêne se moque du roseau, il accuse le roseau d'être faible, et il se vante lui-même d'être très fort et d'être indestructible. Alors se lève un vent de tempête qui les assaille tous les deux, le chêne tient bon et le roseau plie. Et au bout d'un certain temps, le vent ayant redoublé ses efforts, le chêne est déraciné, tandis que le roseau, lui, reste indemne. Hein. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts, dit La Fontaine. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, cette fable ? Elle oppose deux attitudes, l'attitude de résistance, incarnée par le chêne, et l'attitude de soumission, incarnée par le roseau. Alors apparemment, la fable veut nous dire qu'il vaut mieux céder et se soumettre à une force plus grande que soi-même, plutôt que de lutter contre cette force, le combat étant trop inégal. Alors on pourrait noter aussi un châtiment de la présomption ou de l'orgueil démesuré du chêne, ce que les Grecs appelaient hybris, hein, l'hybris, l'orgueil démesuré, qui est châtillé donc par la tempête, qui serait la némésis de cet hybris. Hein. On pourrait parler aussi d'une paranoïa du chêne, d'une inflation psychique, comme disent nos psychologues aujourd'hui. Hein. Bon, mais quand même, il ne faut pas oublier que le chêne avait proposé au roseau de l'abriter sous ses branchages quand même, pour bien montrer qu'il ne faut pas quand même trop le critiquer. Alors on peut aussi, de notre point de vue, trouver le châtiment du chêne injuste et immérité, car au moins il a lutté, il a combattu, tandis que le roseau s'est contenté de ployer et de plier. Hein. Si on a cette réaction-là, valoriser le chêne par rapport au roseau, c'est qu'on est modelé par une vision du monde, ou comme disent les Allemands, une Weltanschauung particulière. Et cette vision du monde, c'est celle de l'Occident, pour laquelle la lutte ou le combat sont tout. Nous valorisons chez nous essentiellement l'action, hein, depuis le 13e siècle. C'est ce que j'appellerais l'esprit faustien de l'Occident, hein. Faustien. C'est Spengler qui parle de l'esprit faustien dans son livre Le déclin de l'Occident. En effet, dans la pièce de Goethe, Faust, hein, Faust écrit à sa façon, la façon qui sera occidentale, le début de l'évangile de Saint Jean. Bon, le début de l'évangile de Jean, c'est au début était le verbe, en arché, en o logos, hein. Mais Faust change la formulation et au lieu d'écrire au début était le verbe, il dit au début était l'action, das tun, hein, l'action, voilà. Donc, il y a là une mutation décisive par laquelle, je dirais, l'action a acquis en Occident beaucoup plus de poids et de densité. Et Spengler, dans son livre Le déclin de l'Occident, dit que, par exemple, le parfait latin feci a été remplacé chez nous par habeo factum, qui a donné le passé composé, feci je fis et j'ai fait. Alors, c'est habeo factum, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose, et cette chose reste comme le poids de ma propre responsabilité. Alors, par exemple, je vais prendre d'autres exemples. Je pense au récit symbolique d'Hemingway, Le vieil homme et la mer. Alors, nous admirons ce vieux pêcheur qui s'est battu pour préserver sa pêche contre les requins, même si cette lutte finalement n'a servi à rien. Nous pensons qu'il est de l'honneur de l'homme de se battre, de lutter. L'homme ainsi est grand, même lorsqu'il succombe. Et il y a une certaine grandeur de l'échec, malgré l'absurde. Je pense au film, par exemple, aux différents film de John Huston, hein. Par exemple l'homme qui voulut être roi, hein. Donc l'homme peut échouer dans sa tentative, mais au moins il a la grandeur de l'avoir entreprise. Alors il faut que nous nous auto-analysions, hein. Cette attitude de lutte nous est imposée depuis des siècles par notre culture. Cette attitude n'est pas universelle. Nous avons été modelés par cette attitude, mais elle n'est pas la seule posture possible dans l'existence. Il y a des cultures qui valoriseront le roseau par opposition au chêne. Par exemple, des cultures orientales. Nous y viendrons, hein. Alors, le chêne peut symboliser chez nous le stoïcisme. Le stoïcisme nous dit que l'homme doit sculpter sa propre statue. Et pour cela, il doit s'élever par l'énergie au-dessus du sort hostile. Il doit supporter, s'abstenir, comme on dit en grec « anekou kayapekou » et en latin « soustiné et abstiné », c'est-à-dire « supporte et abstiens-toi ». Et nous pensons que cette attitude de lutte est digne, alors que nous croyons, par exemple, que le roseau est paresseux, hein, qu'il se laisse aller. Nous voyons peut-être, justement, que l'homme agit avec énergie, et nous ne voyons pas que l'homme peut s'auto-diviniser ou s'auto-idolâtrer par cette posture, hein. Alors, cette posture, elle est immortalisée à l'époque moderne par Alfred de Vigny dans son poème « La mort du loup ». Et elle voisine avec l'athéisme, alors que le stoïcisme ancien n'était pas athée. Voici que la leçon que donne le loup au chasseur dans « La mort du loup » de Vigny. « Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. » Et il y a un néo-stoïcisme contemporain qui nous conforte dans cette idée. Elle se trouve, cette idée d'un néo-stoïcisme, dans le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Ce mythe de Sisyphe nous habite à lutter, même dans l'absurde. En effet, Sisyphe avait été condamné à pousser un rocher du bas en haut de la montagne. Une fois que le rocher était arrivé en haut de la montagne, le rocher redescendait. Donc Sisyphe était obligé de redescendre, de reprendre le rocher pour le pousser à nouveau. Donc, c'est absurde. Mais Camus, philosophe de l'absurde, nous dit, à la fin, il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'il prend le parti de Sisyphe, même si le sort qui lui est dévolu est absurde, parce que l'honneur de l'homme, c'est d'agir. Voyez. Donc, on a là toujours une déclinaison de l'attitude du chêne. Hein, et le vocabulaire moral même que nous pouvons ici employer, le chêne est courageux et le roseau est lâche, nous a été enseigné. C'est le tréfonds, je dirais, de notre culture. Mais, je le répète, d'une seule culture. Prenons un autre exemple. Considérons par la pensée une fourmi qui escalade un brin d'herbe. Alors la fourmi, elle s'évertue, elle peine, elle s'échine. Maladroite, elle progresse à certains moments, puis l'instant d'après, elle va retomber, elle est déséquilibrée, etc. Prenez le brin d'herbe au contraire. Le brin d'herbe, il ploie harmonieusement au moindre souffle du vent. Esthétiquement, c'est beau à regarder. Il est souple, il est ondoyant et il est bien plus beau sûrement que la fourmi dans tous ses efforts. Alors entre les deux, qui a raison? Des deux postures, laquelle faut-il préférer? Où est le meilleur partage? C'est une question qu'on peut bien se poser. Voilà. Alors, cet exemple de la fourmi escaladant le brin d'herbe, maladroitement, je l'ai tiré d'un livre de John Cooper Powys qui s'appelle « L'apologie des sens ». C'est un livre admirable, où l'auteur fait l'éloge alors de ce qu'il appelle le moi ichthyosaure. Imaginons le saurien des premiers âges dans son marigot. Il est immobile et il contemple tout ce qu'il y a autour de lui. Il bouge pas. Et Cooper Powys défend l'idée de l'énergeia akinesis. Alors, c'est une expression grecque qui veut dire l'énergie sans mouvement et qui se trouve dans Aristote. Donc, qu'est-ce que l'on sait en effet des choses? Sait-on jamais le tout des choses? Donc, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est être immobile comme ce lézard des premiers âges, lézardé, personne, petit saut, n'en sait rien, petit saurien, comme le dit Ponge dans son poème sur le lézard, le salut serait dans notre lézarde, c'est-à-dire l'immobilité, la contemplation, le refus de toute action, c'est une espèce de quiétisme, quies c'est le repos en latin, ou bien desicasme à partir du grec, et sikia c'est le repos, ce sont des sectes contemplatives du christianisme, les hésicastes et les quiétistes, après tout, à quoi sert d'agir, il faudrait donc se vider, ouvrir les mains pour se sauver dans les deux sens du mot, le salut et puis s'enfuir, au sens de s'enfuir. Regardez par exemple comment en Asie on attrape les singes. On fait une petite boîte avec un trou dans la boîte on met des friandises. Eh bien le singe approche, passe la main dans le trou et attrape la friandise, mais il n'a pas l'intelligence d'ouvrir la main pour sortir sa main et donc il est prisonnier puisque sa main est crispée sur la friandise. Le piège à singe. Ça c'est intéressant puisque on peut être perdu par la convoitise ou l'attachement. Et l'évangile chrétien dit la même chose. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui veut la perdre la sauvera. Donc il faut savoir perdre. C'est aussi le travail de la perte ou du deuil en psychanalyse et en vêtements noirs aussi lorsqu'on a perdu un être cher. À propos de ces singes qui n'osent pas ouvrir la main et donc se libérer, j'oppose les mains ouvertes et les poings fermés. Donc il faut ouvrir, les mains, ou bien s'ouvrir pour prier, hein, pour prier. Regardez par exemple dans le yoga, la posture dite du lotus, les mains sont ouvertes, donc en signe de lâcher prise ou d'abandon, hein. Et on peut alors, en ouvrant les mains, trouver la paix. Par exemple, shalom en hébreu ou salam en arabe, hein. Et salam alaikum, la paix avec vous, soit sur vous, d'où notre expression salam alek, hein. Bon, puisqu'on on se salue comme cela quand on est musulman arabe, hein. La racine sémitique, c'est SLM, slem, hein. Ça veut dire la paix trouvée dans la soumission, l'abandon. Et islam veut dire cela, exactement. L'abandon à la volonté de Dieu et la paix elle-même trouvée dans cet abandon, hein. Voilà. Donc, quel est le plus beau mot que ce mot paix, hein? Je pense que cela doit nous faire beaucoup réfléchir. Je vais prendre notre exemple pour vous montrer que la lutte parfois n'est pas pertinente. Elle n'a pas d'efficacité. Si l'on fait de la voile, le vent doit souffler pour faire avancer le bateau. Mais si un grand vent se lève, par exemple comme le Mistral chez nous, dans notre région de Montpellier, hein, le vent du nord. Alors, si l'on se crispe sur les écoutes, sur les cordages du bateau, c'est le meilleur moyen de dessaler, d'aller à l'eau, hein, de connaître le naufrage, parce qu'on ne peut jamais résister contre un vent si fort, hein. Alors, quelle est la solution, Blasio? Elle est très simple, il faut tout lâcher. Par gros temps, lâchez tout. Alors, vous ne risquez rien. Le bateau va flotter comme un bouchon sur l'eau, de haut en bas, et vous ne risquez rien. Mais si vous vous crispez, effectivement, la catastrophe peut s'en suivre. Donc, ce n'est pas pour rien que l'essentiel de l'attitude religieuse, c'est un fiat, hein, fiat en latin, que cela soit, hein. Le Notre Père commence ainsi, hein, fiat voluntas tua, dans la version en latin, c'est-à-dire que ta volonté soit faite, hein. Et puis aussi dans l'évangile de Luc, voyez comment Marie répond à l'ange de l'Annonciation. L'ange lui dit « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre et te naîtra un fils qui sera appelé Emmanuel. » Eh bien, Marie, qui ne comprend pas, accepte, admet cela, et elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Dans la Vulgate, « Fiat secundum verbum tuum. » Vous voyez. Donc, je crois que le fiat est très important dans la prière. Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils font la prière, font ce qu'on appelle des rogations, c'est-à-dire des demandes pour soi-même, hein, et au lieu de dire « que ta volonté soit faite », ils sous-entendent au moins « que ma volonté soit faite », c'est-à-dire qu'ils obtiennent quelque chose dans un échange, justement, de la soumission dans la prière. Ça, ce n'est pas une bonne chose, voyez. Alors, la réponse de Marie à l'ange, « qu'il me soit fait, que cela soit, qu'il me soit fait selon ta parole », eh bien, figurez-vous qu'elle est le fil rouge d'une chanson des Beatles qui s'appelle Let It Be, Let It Be. Que cela soit, hein, que cela soit se passe, hein. Quand la nuit arrive, quand je n'ai plus le soleil qui brille sur moi, eh bien, en attendant qu'il brille demain, que cela soit, que cela soit. Et d'ailleurs, regardez, je l'ai sous les yeux. When I find myself in times of trouble, lorsque je me trouve dans une épreuve, hein, Mother Mary, la mère, la Marie, la Vierge, hein, comes to me, elle vient vers moi, speaking words of wisdom, let it be, en prononçant des mots de sagesse, hein, que cela soit. Alors, excusez-moi pour mon mauvais accent, anglais. Je fais ce que je peux, hein. Mais ce Let It Be, beaucoup de gens qui aiment les Beatles ne se doutaient pas qu'il y avait une démarcation de l'Annonciation au début de l'évangile de Luc, hein, avec le fameux Let It Be. Alors, je reviens à mon problème. Il faut très souvent accepter ce qui est, hein. Que votre oui soit oui et votre non, non. Tout le reste vient du malin. Je viens de citer une phrase évangélique. Et un homme comme Arnaud Desjardins, il voit le refus du mental et de ses hésitations. Le mental est fait de projections, de supputations et de dénégation des choses réelles. La religion, au contraire, dans la pureté de son type, bien sûr, sûr. Hein. Elle est acceptation, elle est adhésion. La foi, en grec pistis, en latin fides, hein, implique de croire les yeux fermés, hein, c'est-à-dire ouvrir ses mains, voilà, ouvrir ses mains. Donc, il y a effectivement des attitudes de prière chez les orants ou les orantes. Orant, c'est celui qui prie, oro, orare en latin, qui se font mains ouvertes. Alors, chez nous, nous avons nous prions mains jointes, hein, on peut aussi bien prier les mains ouvertes comme font certains. Alors, une variante de cette opposition entre lutte et soumission, hein, se trouve dans une opposition entre masculin et féminin. Je vais simplement aborder cette question que je développerai dans l'émission suivante. Hein, masculin et féminin. Alors, surtout, remarque préliminaire, ne croyez pas que j'essentialise ainsi le masculin et le féminin, que je les fétichise et que j'oppose absolument les deux sexes de façon radicale. C'est une piste que je vais tracer. Est-ce qu'il y a dans la vie une attitude qui serait plutôt masculine et une attitude qui serait plutôt féminine? Je m'excuse par avance auprès des féministes ou bien de celles qui sont partisanes de la théorie du genre, selon laquelle le genre n'a rien à voir avec la biologie, hein, mais a tout à voir avec l'éducation et le contexte, le conditionnement éducatif. Hein. Bon, ce que je vais dire peut-être les choquera, hein, mais bon, j'accepte de choquer, hein, je n'engage que moi, en tout cas. Hein. Alors, je dirais que peut-être une attitude de lutte est plus spécifiquement masculine et une attitude de soumission plus spécifiquement féminine. Hein. Alors, bien sûr, les modèles culturels ne sont pas dans l'absolu, hein. Ils ne sont pas sexuellement neutres. Hein. Tout système anthropologique, toute représentation symbolique, toute vision du monde, à mon avis, reflète la prévalence d'un modèle, soit masculin, soit féminin, avec les réserves d'usage que je ne répéterai jamais assez. Alors je dirais qu'il n'est pas sûr que la femme spontanément valorise l'auto-affirmation, la mise en avant du moi, la marque laissée sur les choses, autant que l'homme. Hein. On constate que les femmes ont moins d'ambition professionnelle que les hommes, et on le déplore. Mais je me demande souvent pourquoi faut-il le déplorer? Est-ce que l'ambition n'est pas une valeur masculine, par excellence? Hein? Et pourquoi faudrait-il qu'une femme fasse sienne des valeurs masculines? Alors on trouve que la vie cachée est terne, mais est-ce que on croit qu'il est meilleur de vouloir éclabousser tout le monde tous les jours et de passer sa vie à étrangler quotidiennement son voisin? Vous voyez, donc je crois que l'attitude masculine, qui est basée sur la représentation sociale, sur le fameux honneur masculin, ne fait que recouvrir en réalité la force, la pulsion agressive. Hein. Il m'est arrivé dans mon livre sur la sagesse, sur les chemins de la sagesse, que je viens de sortir chez BOD, BOD.fr. Hein. Ce livre décrit l'honneur masculin. L'honneur masculin, j'ai critiqué l'attitude de Rodrigue dans le Cid. Hein. Rodrigue, as-tu du cœur? Ben, sachons lire. Rodrigue, est-ce que tu es un homme? Voilà. Est-ce que tu es un homme viril? Hein. Et donc, le fameux qui m'aima généreux me haïrait infâme, je le transforme en qui m'aima généreux me haïrait en femme. Vous voyez, hein. C'est-à-dire que la femme est considérée comme un territoire, une propriété à défendre et à garder, et l'honneur d'une femme renvoie à l'instinct de propriété de l'homme. L'honneur, en réalité, ne dit rien de ce que l'on est, hein, mais elle dit tout de ce que l'on représente. Or, en fait, on est honorable quand on fait des choses honorables, et non pas quand on nous manque de respect, par exemple. C'est celui qui nous manque de respect qui se déshonore lui-même par ce qu'il fait, hein. Donc je ne me sens pas déshonoré lorsque quelqu'un m'agresse. Et pareillement pour l'honneur justement dit féminin, hein, une femme violée par exemple est victime d'un crime et c'est son agresseur qui s'est déshonoré parce qu'il a fait. Donc la femme n'est pas déshonorée. Et les fameux crimes d'honneur qu'on voit dans certaines cultures machistes, à mon avis, sont des choses atroces et inadmissibles. Hein, mais cela renvoie à ce qu'il y a de plus agressif et de plus animal, cette notion d'honneur chevaleresque. Schopenhauer l'a critiqué dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie. Et c'est la rhétorique cornélienne dans le Cid est mise au service de l'animalité masculine. Et alors, Rodrigue, c'est un matamor, un tueur de mort, hein, paressé, navarré, morts et castillans, etc. Il se frappe la poitrine de sa main en disant « je suis le plus fort », vous voyez. Donc, je pense que cette attitude de Rodrigue, qui est entièrement soumise à la représentation sociale et au code d'honneur, elle serait totalement comprise par les jeunes des banlieues aujourd'hui, qui attachent beaucoup d'importance au respect qu'on leur doit. Hein, il m'a manqué de respect, il m'a mal regardé, etc. S'il n'y avait pas la rhétorique et la langue cornélienne qui leur échappe, ils comprendraient tout à fait justement cette pièce, la situation de cette pièce. Il m'a manqué de respect, il m'a mal regardé. Mais enfin, si quelqu'un me marche sur les pieds, je ne me sens pas déshonoré. Si quelqu'un me soufflette, me donne une gifle, je ne suis pas déshonoré. C'est celui qui me marche sur les pieds qui est déshonoré. C'est celui qui me donne la gifle qui est déshonoré. Un homme avait frappé Socrate à Athènes et Socrate avait répondu « patasei alla kouei », c'est-à-dire « frappe mais écoute ». Il avait nié qu'il ait été déshonoré d'une certaine façon. Donc je dirais que derrière l'honneur masculin, il y a l'agressivité et l'animalité. Et finalement, je pense que cette attitude-là doit être totalement contestée. Donc, le masculin chez nous, bien sûr, domine. Nous sommes une civilisation machiste. Hein. Le mode de vie valorisé chez nous est un modèle masculin. Mais je trouve que l'imposture, alors je n'engage que moi, hein, mais je trouve que l'imposture de certains féminismes, c'est de vouloir imposer à la femme des valeurs qui ne lui appartiennent pas en propre. Donc, bien sûr, la lutte des classes est une contradiction. Hein, mais elle est secondaire à côté de la lutte des sexes, à mon avis, qui est une contradiction primaire. Et je trouve qu'il y a une certaine naïveté à postuler une équivalence de fait entre l'homme et la femme et à confondre égalité de droit, bien sûr il faut une absolue égalité de droit, avec une identité. Hein, une identité. Là je ne suis pas d'accord quand on parle justement de femmes qui voudraient rivaliser avec les hommes sur leur propre terrain, alors que le terrain masculin justement doit être contesté. Hein. Alors je sais bien que Simone de Beauvoir nous dit « on ne naît pas femme, on le devient hein. ». Je sais bien qu'Elisabeth Badinter nous dit que l'un et l'autre, peut-être. Hein. Mais je trouve que la tâche culturelle de l'Occident, je vais terminer là-dessus, était au contraire doit être au contraire de réévaluer l'exclusion que l'Occident a faite de sa part féminine. Cette part féminine qu'il a refoulée et diabolisée. Je pense qu'il ne faut pas affirmer une identité chimérique entre les hommes et les femmes, mais il faudrait mieux comprendre leurs différences. Comprendre que notre culture est masculine, c'est comprendre qu'il y a des cultures féminines bien différentes. Et penser à la femme qui a été chez nous décrétée sorcière, à la femme brûlée sur les bûchers, par exemple, c'est la part refoulée de l'Occident, qu'on voit bien par exemple dans le livre de Michelet, La sorcière. Voilà, bien écoutez, j'amorce donc simplement cette réflexion que je continuerai lors de la prochaine émission. Je rappelle que donc dans mon livre Sur les chemins de la sagesse, j'ai fait une réévaluation justement du modèle masculin et j'ai voulu une sagesse beaucoup plus féminine que masculine. Voilà, eh bien, j'espère n'avoir choqué personne. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour creuser encore cette question du masculin et du féminin. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.